France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue sur Inter, bonjour à tous, nous sommes le mercredi 24 mars. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, 16 aujourd'hui et combien demain, le nombre de départements soumis à de nouvelles restrictions pourrait augmenter à l'issue du Conseil de défense sanitaire qui se tient ce matin. Une dizaine de départements sont sur la sellette. Reportage dans l'Orne, dès le début du journal, après les autres titres, Agnès.
Pourquoi il est si difficile d'ouvrir de nouvelles places en réanimation, c'est avant tout une question de personnel, nous dira Cécilia Arbona. Il n'est jamais trop tôt pour débuter sur Insta. Le réseau social veut lancer un compte pour les moins de 13 ans. Le livre choc de l'ancien patron de la CIA sur les ingérences russes. Quand les pâtissiers des palaces parisiens se mettent au chocolat. Et puis le début d'une semaine de reconquête pour les Bleus.
Et les invités et rendez-vous d'Inter ce matin à 7h50,
oui,
Léa.
Oui, il publie les essentiels de la République, comment la Covid-19 a changé la consommation des Français. Et il en profite pour répondre à toutes les critiques faites sur la grande distribution. Michel-Édouard Leclerc, PDG des centres Leclerc, sera avec nous à 7h50.
Et on se retrouve, Léa, à 8h20 pour parler de Covid, de l'épidémie. Grand entretien de la matinale avec le professeur de santé publique au CHU de Lille, Philippe Amouyel, et le chef de service de réanimation médicale et infectieuse de l'hôpital Bichat, Jean-François Timsit. Vos questions dès maintenant, le standard vous attend au 01 45 24 7000. Et puis à l'occasion de la journée spéciale interclasse que vous propose France Inter, le Zoom à 7h15, comment parler des dessins de presse à l'école après l'assassinat de Samuel Paty. On verra ça dans le reportage de Sonia Princé. Nombreux rendez-vous toute la journée sur l'antenne
France Inter.
308 cas pour 100 000 habitants, c'est le taux d'incidence moyen en France. Mais il cache des disparités abyssales, avec un taux qui monte à plus de 600 dans le Val-d'Oise et la Seine-Saint-Denis et qui ne dépasse pas les 100 dans le Gers, la Creuse ou les Pyrénées-Atlantiques. Et une dizaine d'autres départements semblent en sursis, dans le Sud-Est, le Grand Est et autour de l'Île-de-France. C'est le cas également dans l'Orne, dans la communauté de communes de l'Aigle, où s'est rendue Faustine Calmel. Reportage.
Ce matin-là, c'est dépistage à la salle Michaud.
Donc vous respirez bien par la bouche?
Tous les jours, pratiquement, on est en contact avec des gens qui sont positifs.
Nourdine ne compte plus les tests.
J'ai 4 enfants. La semaine dernière, il y en a un qui était en contact direct avec un copain à lui. Donc, il est resté 7 jours à la maison. Plus de ça, je fais le ramassage scolaire. Donc, je suis en contact avec les enfants tous les jours.
Et inquiet face à l'incidence qui grimpe, 650 cas pour 100 000 habitants, c'est presque autant que la Seine-Saint-Denis, département le plus touché de France, deux fois plus que dans l'Eure, reconfinée à seulement 6 km. Sur le marché, beaucoup s'étonnent de cette flambée. Véronique travaille dans un lycée.
Comme je suis préparatrice, c'est vrai que je peux aussi éviter le maximum d'élèves. Et puis le lavage des mains, dès qu'on touche quelque chose, on nettoie les poignées de porte. Enfin, on est toujours avec le chiffon à la main.
À l'Aigle, 3 classes de primaire sont fermées. La mairie a dû l'être aussi la semaine dernière pendant une journée. Trop de cas contacts.
Philippe Van Horn, maire de l'Aigle. Dans le passé, on avait eu surtout des clusters importants avec nos EHPAD. Là, c'est plus privé. C'est ce qu'on a constaté au retour des vacances de février. En plus, quasiment plus de 70% des patients Covid sont du variant britannique.
Et la conséquence, c'est l'hôpital qui sature. Ces derniers jours, il a fallu transférer des malades dans les centres hospitaliers d'Argentan et d'Évreux.
Le Conseil de défense sanitaire devrait donc ce matin dessiner une nouvelle carte de France. En attendant, la carte des départements en sursis est à découvrir sur franceinter.fr. Alors comment soulager les services de réanimation? L'Île-de-France va déprogrammer 80% des soins pour parvenir à créer 2200 lits. En région parisienne, contre 1351 aujourd'hui. Mais les lits seuls ne suffisent pas. Et contrairement à ce qui s'est passé lors de la première vague, les hôpitaux franciliens ne peuvent plus compter sur les renforts venus des régions moins touchées. Pourquoi ? Les explications de Cécilia Arbona.
Mais où sont passés les renforts du printemps dernier ? Ces infirmières pleines d'énergie, accourues des quatre coins de France, qui ont déferlé dans les gares parisiennes pour prêter main forte à des soignants d'Île-de-France débordés.
On n'aura pas de renforts d'autres régions, on le sait très très bien.
Inutile de les guetter sur le quai, ils ne reviendront pas, avertit le professeur Stéphane Gaudry du service de médecine intensive et réanimation à l'hôpital Avicenne de Bobigny.
Les autres régions sont plus impactées qu'à la première vague, avec des gens qui sont fatigués, beaucoup d'arrêts de travail, pas mal de burn-out. Et puis en même temps, la vie de tous les jours à l'extérieur de l'hôpital, qui n'est pas drôle non plus. Donc globalement, on passe d'un état d'esprit très combatif, avec l'envie de relever le défi l'année dernière, à maintenant, voilà, un certain ras-le-bol.
Et le médecin d'insister, on ne manque pas de lits de réanimation, on manque de bras.
Pour ouvrir 3 lits de réanimation supplémentaires 24-24, il faut 6 infirmières de plus. Elles ne travaillent pas 24 heures sur 24, il faut qu'elles rentrent, qu'elles se reposent. Au maximum, elles peuvent travailler 48 heures par semaine. Bah, vous êtes très loin d'avoir les capacités d'ouvrir beaucoup de lits.
Le docteur Gaudry en est convaincu, le compte n'y sera pas.
Quant à la campagne de vaccination, nouvelle étape samedi avec la possibilité pour les plus de 70 ans de se faire vacciner. Cela concerne 3,5 millions de personnes. Les enseignants devraient également pouvoir se faire vacciner d'ici un mois. Et puis un couvre-feu sera décrété en Martinique à partir de vendredi soir et pour 3 semaines.
Il est 7h06, enfer numérique ou mal nécessaire?
Question légitime face au projet d'Instagram de créer un réseau social spécialement conçu pour les enfants. Pour les dirigeants, il s'agit d'offrir un environnement plus sécur pour les moins de 13 ans. Pour d'autres, c'est une façon d'attirer et de fidéliser les utilisateurs dès leur plus jeune âge. Laurélie Carive.
Aujourd'hui, Instagram est réservé aux utilisateurs de plus de 13 ans. Sur le papier, en tout cas, puisqu'en pratique, la barrière est facile à contourner. Il suffit de tricher sur sa date de naissance. Si bien qu'en France, plus de la moitié des 11-14 ans déclarent avoir un compte sur le réseau social. Or, on connaît les risques, harcèlement, mauvaises rencontres ou encore addiction aux écrans. Instagram travaille déjà à fournir un cadre plus sécurisé aux ados qui l'utilisent en limitant les interactions avec les adultes. Là, il s'agit d'aller plus loin avec une déclinaison spécifique pour les moins de 13 ans. On ne sait pas encore comment elle fonctionnera, mais les dirigeants pourraient bien s'inspirer de Messenger Kids, lancé par la maison mère Facebook il y a 4 ans, et où les parents doivent valider chaque conversation de leur enfant avec un nouveau contact. Évidemment, le projet est hautement stratégique pour Instagram, puisqu'il lui permettrait de capter des utilisateurs dès leur plus jeune âge, face à la concurrence féroce de Snapchat et TikTok.
C'est une petite phrase d'Emmanuel Macron qui n'est pas passée inaperçue hier soir. Il y aura des tentatives d'ingérence de la Turquie lors de la prochaine présidentielle française. Le chef de l'État était interrogé dans le cadre d'une émission sur France 5 consacrée au président turc.
Il y aura des tentatives d'ingérence pour la prochaine élection.
De la part des Turcs ?
Évidemment, c'est écrit. Et les menaces ne sont pas voilées. Donc je pense qu'il faut qu'on soit très lucide. Moi, je considère que ça, c'est insoutenable. Après, moi, j'ai noté depuis le début d'année une volonté du président Erdogan de se réengager dans la relation. C'est ce que je lui ai dit tout à l'heure. Et donc, je veux croire que c'est possible, ce chemin. Mais je pense qu'on ne peut pas réengager quand il y a des ambiguïtés. Et je pense qu'en tout cas, je ne veux pas réengager une relation apaisée s'il y a derrière de telles manœuvres qui se poursuivent.
Emmanuel Macron, hier soir, dans l'émission « C'est dans l'air ». Des ingérences, l'ancien patron de la CIA est formel, il y en a bien eu, de la part de la Russie, lors des 2 dernières élections présidentielles aux États-Unis. John Brennan publie un livre aujourd'hui dans lequel il raconte ses 33 ans passés au sein des services secrets américains. Et il s'est confié à notre correspondant aux États-Unis, Grégory Phillips.
John Brennan a passé 33 ans à la CIA, coordinateur de la lutte antiterroriste après les attentats du 11 septembre 2001, conseiller de Barack Obama, puis finalement patron de l'agence de 2013 à 2017. Quand il quitte la CIA, viré par Donald Trump, Brennan a la certitude et les preuves que Moscou a tout fait pour que le milliardaire républicain l'emporte.
Oui, le monde du renseignement aux États-Unis peut affirmer qu'en 2016 et 2020, la Russie de Vladimir Poutine a tenté de peser dans les élections américaines pour le compte de Donald Trump.
Quand le président Biden est interrogé et qu'on lui demande si Vladimir Poutine est un tueur, il répond par l'affirmative. En tant qu'ancien patron de la CIA, est-ce que vous auriez la même réponse?
Il fait peu de doute que les services de renseignement russes ont mené des attaques contre des dissidents russes en utilisant du poison ou d'autres moyens, contre leurs concitoyens, mais aussi contre des étrangers. Vladimir Poutine fera, de mon point de vue, tout ce qu'il faut pour se maintenir au pouvoir. C'est en quelque sorte ce que Joe Biden a expliqué aux Russes et au monde.
The Russians and the world. William Burns, le nouveau patron de la CIA nommé par Joe Biden, a été confirmé à son poste il y a 5 jours et il a déjà fait savoir que la Russie et la Chine seraient ses 2 priorités. New York, Grégory Phillips, France 1.
Les scrutins se suivent et se ressemblent en Israël. Au lendemain des élections législatives, le Premier ministre sortant revendique un immense succès. Mais si Benjamin Netanyahou est en tête, c'est sans garantie d'obtenir une majorité pour former un gouvernement. Nous serons à Jérusalem dans le journal de 7h30. Ils sont déjà en rayon, les lapins, cloches et autres poissons au chocolat, à 10 jours du week-end de Pâques. Il faut dire que l'an dernier, en plein confinement, les gourmandises n'avaient pas fait recette. Alors cette année, Philippe Lefebvre, les palaces parisiens dégainent leur nouvelle création.
Dans les 115 entreprises françaises qui fabriquent du chocolat, on ne veut pas revivre les fêtes de Pâques 2020 en plein premier confinement qui avait vu les ventes s'effondrer, se souvient Jean-Baptiste Santoul, le directeur général de Ferrero France.
Le chiffre d'affaires était à moins 26, moins 27%. Alors, ce qui n'était pas vendu à Pâques, il a fallu le brader, mais aussi, dans certains cas, malheureusement, le reprendre et le détruire.
Mais une partie des œufs, cloches et autres lapins a tout de même pu être distribué via plusieurs organisations caritatives. Et cette année, les grandes surfaces ont décidé de proposer bien avant Pâques les premiers chocolats qui pourraient rester également plus longtemps en rayon. Et du côté des artisans, on est aussi sur le pied de guerre avec cette année une nouvelle concurrence, celle des pâtissiers des grands hôtels comme Michael Bartocchetti du Georges V qui proposera son œuf de Pâques dans une boutique éphémère à l'intérieur de l'hôtel.
On l'a gagné avec un praliné à la noisette du Piémont, un petit caramel beurre salé, des noisettes du Piémont caramélisées et fleurs de sel, bien évidemment. Voilà. Et recouvert en tout ça, encore une fois, d'une petite couche de chocolat noir. Et le chocolat noir, c'est un chocolat noir Venezuela, 65%. Alors, il fait 1,3 kg, 1,350 kg à peu près. Il faut penser à la famille.
Une création à 85 euros, un prix largement au-dessus du budget moyen que nous consacrons au chocolat de Pâques et qui avoisinerait les 30 euros.
Et on partagera, Nicolas.
Oui, avec plaisir.
Enfin, pour pouvoir remettre leur titre en jeu l'an prochain au Qatar, les Bleus, champions du monde, vont enchaîner cette semaine les matchs de qualification. L'Ukraine ce soir au Stade de France, le Kazakhstan dimanche à Nour-Sultan, puis la Bosnie-Herzégovine mercredi prochain à Sarajevo. Cédric Guillou.
Pour être sûr d'aller défendre leur titre au Qatar à l'hiver 2022, les Bleus devront terminer premier de leur groupe ou passer par des barrages s'ils finissent deuxième. C'est largement à la portée de l'équipe de France pour la consultante football de Radio France, Nadia Ben Mokhtar.
Le mot d'ordre sera simplement d'éviter de tomber dans des matchs pièges. Pièges par le contexte. Je pense au Kazakhstan par exemple, un déplacement lointain, des terrains parfois d'une qualité un petit peu médiocre. Piège aussi par les adversités qui vont être proposées. Ça va être des équipes qui vont toutes jouer sûrement dans des schémas très défensifs. Donc les Bleus vont vraiment devoir faire preuve de patience, de beaucoup de concentration et d'application.
Et ça doit commencer dès ce soir contre l'Ukraine pour le défenseur des Bleus, Raphaël Varane.
Il va falloir tout de suite être en mode compétition. Si on peut éviter de se retrouver dans une situation où on doit tout jouer sur un match pour se qualifier, ça serait mieux. Donc c'est mieux de bien commencer, d'engranger un maximum de points tout de suite.
Marquer des points, marquer les esprits face à l'Ukraine, 24e nation mondiale, qui sera l'adversaire le plus coriace des Bleus dans ses qualifications. Les trois autres nations qu'affronteront les champions du monde sont au-delà de la 50e place au classement FIFA.
Et coup d'envoi de France-Ukraine à 20h45 et ce sont tout 13 billets qui seront délivrés dans la zone euro pour la Coupe du Monde 2022.
Merci Agnès Soubiran. Le zoom dans 3 minutes. Comment parler des dessins de presse à l'école après l'assassinat de Samuel